RCF.
La Bible a plusieurs voix. Vous entendrez aujourd'hui les voix de
Marie-Pierre Desfossés,
Jean-Luc Autrette,
Malou Lebars et merci à Yvon Gargam à la technique. Bonjour à tous, ravis de nous retrouver ensemble à la table de la parole. Cette année, nous allons essayer de creuser un petit peu la question de la violence et de la paix dans la Bible. On pourrait poser la question, quel chemin de paix dans un monde de violence ? Alors c'est vrai que lorsque nous sommes attentifs dans la lecture de la Bible, à la volonté de puissance, à l'écrasement des petits, nous découvrons qu'il en est question presque à chaque page. Alors la question pour nous, est-ce que nous sommes condamnés à subir ou à provoquer cette violence et parfois même les récits bibliques nous donnent presque l'impression que c'est Dieu qui la cautionne, cette violence, ou en tout cas, on a l'impression qu'on la met du côté de Dieu. Et pourtant, les récits bibliques ne cessent de dénoncer la violence et de proposer un chemin de paix pour la dépasser. Alors, pour commencer, donc, dans cette série de textes, nous prenons un texte quand même très connu, très célèbre, fondateur, pour les Hébreux et pour nous aussi, c'est le texte de ce qu'on appelle la traversée de la mer après la sortie d'Égypte. Donc nous allons trouver cela au livre de l'Exode, chapitre 13 et 14. Mais peut-être auparavant, serait-il bon de nous rappeler un petit peu, peut-être les souvenirs que nous avons de ce récit de l'Exode. Ça raconte quoi finalement l'Exode ?
On parle souvent, quand il est question d'Exode, de la traversée de la mer Rouge. Bien que la mer Rouge, on n'en parle pas vraiment dans le texte, donc on sent bien qu'il y a eu des images par derrière tout ça.
Oui, mais quand même, le personnage qui est clé quand même de...
C'est Moïse.
C'est Moïse.
Évidemment.
Alors ce personnage-là, il arrive comment là dans l'histoire en Égypte, l'histoire des fils d'Israël, en Égypte, il arrive comment ce personnage de Moïse ?
Il arrive au moment où Pharaon... demande que tous les enfants mâles d'Israël soient exterminés. Et donc la mère de Moïse, pour qu'il ait la vie sauve, le dépose donc sur un panier
au bord du fleuve. Mais pourquoi est-ce que Pharaon veut se débarrasser de tous les nouveau-nés, de tous les enfants mâles du côté des Hébreux ? Pourquoi ?
Parce qu'on nous disait que les Hébreux pullulaient en Égypte.
Donc, le meilleur moyen, c'est de supprimer les enfants mâles. Mais alors, peut-être aussi, faut-il dire qu'il y avait auparavant, dans la Genèse, un personnage biblique très important, une figure biblique qui était déjà présentée comme étant en Égypte, non ?
C'était Joseph, parce que le peuple est arrivé en Égypte quand il y a eu la famine dans leur pays, et Joseph était un personnage important auprès de Pharaon, et donc il a fait venir ses frères, son père en Égypte, pour qu'il ne périsse pas de la faim.
Donc Joseph étant aussi lui-même fils de la promesse. Mais il se trouve qu'au début de l'Exode, effectivement, on a un peu oublié l'histoire de Joseph, oui. Et on va repartir avec un nouvel épisode. Et c'est cet épisode-là de cet enfant des Hébreux confié dans un panier qui évoque sans doute l'arche du déluge, voilà, et qui est recueilli par la fille de Pharaon. Oui. Et c'est la fille de Pharaon qui lui donne son nom. Et ce nom, c'est
Moïse.
C'est-à-dire
Sauver des eaux.
Sauver des eaux. Donc voilà, c'est déjà figurativement très intéressant que Moïse ait ce nom-là, voilà, tirer des eaux, sauver des eaux. Et donc, ce que nous allons aborder aujourd'hui, c'est l'histoire de Moïse, sauveur du peuple des fils d'Israël, parce que Dieu lui a donné cette mission donc, au moment du buisson ardent. Mais ça ne se passe pas si facilement que ça, quand même. Il ne suffit pas que Moïse claque des doigts pour que les Hébreux le suivent pour sortir d'Égypte. Comment ça se passe ?
Il va y avoir de la résistance de la part de Pharaon. Ça va être assez compliqué, en fait. Et on va évoquer les fameuses 10 plaies d'Égypte, en fait, puisque le Seigneur Dieu, à travers donc, Moïse et son frère vont être amenés donc à parlementer avec Pharaon, qui ne va pas du tout accepter les propositions de...
Oui, alors donc, Pharaon n'a pas envie de laisser partir les fils d'Israël. Pourquoi ? Parce que c'est une force de travail quand même pour lui, parce qu'il les a mis en esclavage. Oui. Donc, il y a cette idée-là que les fils d'Israël sont esclaves en Égypte. Mais donc, à force de prendre coup sur coup les 10 plaies d'Égypte, ben voilà, il y en a 10, hein. Pharaon va prendre coup sur coup, hein, donc, et à la fin, il finira par laisser partir les fils d'Israël. Mais bon, il va s'en repentir, parce qu'on le verra bien dans le passage qui nous concerne. Là.
Oui, il va changer d'avis.
Voilà. Alors, donc on va prendre la lecture au chapitre 13, donc du passage, la fin du chapitre 13, versets 17 à 22.
Quand Pharaon laissa partir le peuple, Dieu ne le conduisit pas par la route du pays des Philistins, bien qu'elle fût la plus directe. Dieu s'était dit, il ne faudrait pas que, à la vue des combats, le peuple renonce et qu'il revienne en Égypte. Dieu détourna le peuple vers le désert de la mer des joncs. C'est en ordre de bataille que les fils d'Israël étaient montés du pays d'Égypte. Moïse prit avec lui les ossements de Joseph, car celui-ci avait exigé des fils d'Israël un serment en leur disant « Dieu ne manquera pas d'intervenir en votre faveur. Alors, vous ferez monter d'ici mes ossements avec vous. » Ils partirent de Soukhot et campèrent à Étham, en bordure du désert. Le Seigneur lui-même marchait à leur tête, colonne de nuée le jour pour leur ouvrir la route, colonne de feu la nuit pour les éclairer. Ils pouvaient ainsi marcher jour et nuit. Le jour, la colonne de nuée ne quittait pas la tête du peuple, ni la nuit, la colonne de feu.
Alors donc cette fin de chapitre 13 nous présente donc le laisser aller, si on veut, c'est Pharaon qui laisse enfin partir le peuple d'Israël. Et on nous avait dit déjà au chapitre 12 que les fils d'Israël étaient partis de Ramsès pour Soukhot, environ 600 milliers de fantassins, les hommes, sans compter les enfants, tout un ramassis de gens qui montaient avec eux. Alors, qu'est-ce que vous pensez de tous ces chiffres, de cette masse ? Que faut-il en penser ?
Ça donne en fait effectivement une notion de masse, comme vous le dites, Malou. On sent que c'est une migration de masse. Maintenant, est-ce qu'il y a eu vraiment 600 000 ? Ça, c'est autre chose.
Donc, peut-être que justement ce nombre excessif nous aide à nous détacher de ce qui pourrait être un événement historiographique dont on pourrait décrire les tenants et les aboutissants. Tout le récit nous invite à entendre qu'il est question peut-être de quelque chose de plus fondamental et de plus fondateur finalement.
Sans doute, oui. Sans doute parce que même les noms de lieux vont nous laisser, vont nous laisser des énigmes. En fait, on ne sait pas très bien à quoi correspondent tous ces noms. On va les voir en continuant la lecture. On a des noms qui correspondent. Enfin, les exégètes n'ont pas réussi à trouver des lieux exacts qui pourraient correspondre à ces noms. Donc,
alors peut-être que justement ce parcours que nous allons faire aujourd'hui va nous aider aussi à nous détacher d'images que nous portons en nous, qui peuvent nous venir peut-être du temps du caté, ou qui peuvent venir de films que nous avons vus. On peut penser à quoi, par exemple ?
Oh ben, on a tous en tête la mer qui s'ouvre, et puis ben, le peuple hébreu qui traverse la mer, et Pharaon et tous ses chars engloutis.
Avec le fameux film, là. Hein,
oui,
voilà, donc les
un grand budget américain, voilà. Effectivement. Voilà. Le peuple homme avec Charlton Heston. Effectivement,
c'est... Donc, du coup, c'est vrai que il faut nous dire bon, ben voilà, on laisse un peu tomber cette imagerie qui pourtant est intéressante en elle-même, hein, mais on la laisse tomber en tant qu'imagerie qui pourrait nous désorienter au point de nous dire ben voilà, comment ça se fait que y ait un peuple qui soit condamné par Dieu et un autre qui soit favorisé. Donc, il nous faut bien entendre autre chose dans tout ce récit. Hein. Donc, au fur et à mesure, on essaiera de préciser un peu tout cela. Mmh. En tout cas, on peut déjà dire aussi que ce texte-là, ce récit est fondateur pour le peuple des fils d'Israël. Parce qu'il y aura toujours une référence à ce temps-là. Hein. Et puis, la fête de la Pessa, la fête de la Pâque, va toujours commémorer cet événement fondateur.
Il est tellement fondateur pour le peuple d'Israël qu'il va revenir également dans l'initiation chrétienne, quelque part, notamment dans la notion de baptême, qu'on va retrouver au moment de Pâques également, en fait. Donc c'est pourquoi, d'ailleurs, il est lu
à la vigile pascale.
Voilà.
Alors, donc je reprends au verset 17 du chapitre 13. Donc, quand le pharaon laissa partir le peuple, Dieu ne le conduisit pas par la route des Philistins, bien qu'elle fût la plus directe. Dieu s'est dit, il ne faudrait pas qu'à la vue des combats, le peuple renonce et qu'il revienne en Égypte. Dieu détourna le peuple vers le désert de la mer des Joncs. C'est en ordre de bataille que les fils d'Israël étaient montés du pays d'Égypte. Alors, c'est quoi ça ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Pourquoi est-ce que ce n'est pas possible pour les fils d'Israël d'aller en ligne droite ?
Déjà, Dieu se parle en lui-même et il connaît bien nos travers humains. Parce que de toute façon, le chemin le plus court qui doit être pris les fera revenir en arrière. Parce que c'est des épreuves qui les attendent. Et face aux épreuves, ils seront peut-être pas prêts à les affronter. Et puis, la tendance, elle est toujours de revenir vers ce qu'on connaît, ce qui est rassurant.
Oui, mais ici, c'est quand même Dieu qui conduit le peuple et qui l'empêche d'aller par la route la plus directe. Donc, en fait, c'est peut-être un autre événement qu'il nous faut évoquer, l'événement donc de Moïse. Moïse au Sinaï, en fait, qu'est-ce qu'il voit ? Il voit un buisson qui brûle. Et pour y arriver, pour accéder, pour s'en approcher, il lui faut faire un détour. Mmh. C'est très intéressant, ça, pour nous. Donc, ça veut dire que, voilà, il faut des tours et des détours, peut-être, pour appréhender une réalité autre que ce que nous connaissons, ce que nous pensons être le meilleur pour nous. Hein, toujours, c'est peut-être quelque chose de cet ordre-là. Hein. Voilà, alors quand on dit aussi, c'est en ordre de bataille que les fils d'Israël étaient montés du pays d'Égypte. Est-ce que ça veut dire qu'ils sont équipés de chevaux, de chars ? Est-ce que ça veut dire qu'ils sont armés ? Est-ce que c'est ça ?
Finalement, c'est le Seigneur, leur arme et puis leur force.
Enfin, ça, ce n'est pas dit encore, mais on le verra dans la suite du texte. Mais ça veut dire quand même que ça commence à devenir quelque chose d'ordonné.
Oui, c'est cela. Oui.
Or, dans ce que j'ai lu tout à l'heure du chapitre 12, c'était bien montré que c'était un ramassis. Donc finalement, il n'y avait pas d'unité dans ce groupe. Et là, donc, il y a quelque chose qui va déjà s'organiser. Mmh. Alors, verset 19, Moïse prit avec lui les ossements de Joseph, car celui-ci avait exigé des fils d'Israël un serment leur disant « Dieu ne manquera pas d'intervenir en votre faveur, alors vous ferez monter d'ici mes ossements avec vous. » Qu'est-ce que ça vient faire ici, les ossements de Joseph ?
Sans doute que ça légitime en fait la position ou la posture de Moïse dans l'histoire de ce peuple et particulièrement dans ce moment précis là. Ça, On pressent, enfin, comme le laissait entendre tout à l'heure Marie-Pierre, que voilà, le peuple va tergiverser, il va vouloir changer d'avis. Et ça va se passer avec ce fameux Moïse. Hein, et on verra quel est son rôle, ce Moïse. En fait, il a un rôle qui n'est pas négligeable en l'articulation entre Dieu et le peuple. Et ça légitime, d'une certaine manière, le fils de la promesse qu'il est, quelque part, en prenant en charge les os de ce Joseph.
Voilà, donc on pourrait dire en quelque sorte que ce Joseph qui est l'héritier de la promesse, ce Joseph c'est comme l'ossature hein, de ce peuple en marche là en quelque sorte.
Exactement. Hein,
donc voilà, et y a cette continuité là du salut assuré par la promesse d'alliance faite par le Seigneur. Hein. Alors, ils partirent de Soukhot et campèrent à Etam, en bordure du désert. Le Seigneur lui-même marchait à leur tête, colonne de nuit et le jour pour leur ouvrir la route, colonne de feu la nuit pour les éclairer. Ils pouvaient ainsi marcher jour et nuit. Le jour, la colonne de nuée ne quittait pas la tête du peuple, ni la nuit, la colonne de feu.
Finalement, c'est Dieu l'unique qui les guide avec deux facettes. Donc, il y a deux facettes de cette nuée-là, pour le jour et la nuit. Ça nous fait penser aussi à l'esprit.
Vous allez vite en besogne, peut-être, quand même, un peu. Hein. attendez, Marie-Pierre. En fait,
parce que c'est ce qui leur permet d'avancer, d'éclairer la route.
Oui, mais alors, si on nous dit donc colonne de feu la nuit, ça éclaire la route quand on marche dans les ténèbres, la nuit. Et la nuée, le jour.
Donc c'est atténué, mais suffisamment pour qu'il ne soit pas perçu des autres aussi. Donc c'est
voilà.
Légèrement voilé.
Donc c'est une protection. Donc voilà. Donc mais c'est très intéressant d'avoir cette double image, ce double symbole, si on veut. Et puis l'idée de colonne, bah, ça donne encore cette idée de force.
De structuration.
Hein. Colonne de feu, la colonne de nuée ne quittait pas la tête du peuple. Voilà. Donc le Seigneur et à leur tête. Alors, si vous voulez bien, nous allons faire une petite pause musicale et nous prendrons le chapitre 14 tout à l'heure. Dans le livre de l'Exode, dans le Premier Testament, nous lisons la sortie d'Égypte, ou ce qu'on pourrait dire la traversée de la mer. Et nous allons prendre le début du chapitre 14, dans la fin de cette émission, nous allons lire du verset 1 au verset 18.
Le Seigneur adressa la parole à Moïse. « Dis aux fils d'Israël de revenir camper devant Pi-Hahiroth, entre Migdol et la mer. C'est devant Baal-Séphon, juste en face, que vous camperez au bord de la mer. Alors le Pharaon dira des fils d'Israël, « Les voilà qui errent affolés dans le pays. Le désert s'est refermé sur eux. J'endurcirai le cœur du Pharaon, et il les poursuivra. Mais je me glorifierai aux dépens du Pharaon et de toutes ses forces. Et les Égyptiens connaîtront que c'est moi le Seigneur. » Ils firent ainsi. On annonça au roi d'Égypte que le peuple avait pris la fuite. Le Pharaon et ses serviteurs changèrent d'idée au sujet du peuple et ils dirent, Qu'avons-nous fait là? Nous avons laissé Israël quitter notre service. » Il attela son char et prit son peuple avec lui. Il prit 600 chars d'élite et tous les chars d'Égypte, chacun avec des écuyers. Le Seigneur endurcit le cœur du Pharaon, roi d'Égypte, qui poursuivit les fils d'Israël, ces fils d'Israël qui sortaient la main haute. Les Égyptiens les poursuivirent et les rattrapèrent comme ils campaient au bord de la mer. Tous les attelages du Pharaon, ses cavaliers et ses forces, près de Pi-Hahiroth, devant Baal-Séphon. Le Pharaon s'était approché. Les fils d'Israël levèrent les yeux. Voici que l'Égypte s'était mise en route derrière eux. Les fils d'Israël eurent grand peur et crièrent vers le Seigneur. Ils dirent à Moïse, « L'Égypte manquait-elle de tombeaux que tu nous aies emmenés mourir au désert ? Que nous as-tu fait là en nous faisant sortir d'Égypte ? Ne t'avions-nous pas dit en Égypte, « Laisse-nous servir les Égyptiens. » Mieux vaut pour nous servir les Égyptiens que mourir au désert. » Moïse dit au peuple, « N'ayez pas peur, tenez bon, et voyez le salut que le Seigneur réalisera pour vous aujourd'hui. Vous qui avez vu les Égyptiens aujourd'hui, vous ne les reverrez plus jamais. C'est le Seigneur qui combattra pour vous. Et vous, vous resterez quoi ?» Le Seigneur dit à Moïse, « Qu'as-tu à crier vers moi ? Parle aux fils d'Israël, qu'on se mette en route. Et toi, lève ton bâton, étends la main sur la mer, fends-la, et que les fils d'Israël pénètrent au milieu de la mer à pied sec. Et moi, je vais endurcir le cœur des Égyptiens pour qu'ils y pénètrent derrière eux, et que je me glorifie aux dépens du Pharaon et de toutes ses forces, de ses chars et de ses cavaliers. Ainsi, les Égyptiens connaîtront que c'est moi le Seigneur, quand je me glorifierai aux dépens de Pharaon, de ses chars et de ses cavaliers. »
Voilà, donc ce début de chapitre 14 est surtout constitué de dialogues.
Oui, c'est ce qu'on appelle de l'énonciation.
Dialogue entre qui et qui, essentiellement ?
Entre le Seigneur Dieu qui parle à Moïse,
voilà,
et Moïse qui parle également.
Qui parle au peuple, et le peuple qui parle à Moïse, qui récrimine, voilà, qui n'est pas content. Voilà. Parce qu'en fait, c'est jamais drôle d'affronter l'inconnu.
Oui.
Il voudrait bien.
De quitter ses sécurités, comme disait Marie-Pierre tout à l'heure.
Retourner en Égypte, même esclave. Alors, verset 1 du chapitre 14, le Seigneur adressa la parole à Moïse, dit aux fils d'Israël de revenir camper devant Pi-Hahiroth, entre Migdol et la mer. C'est devant Baal-Séphon, juste en face, que vous camperez au bord de la mer. Alors le Pharaon dira des fils d'Israël, les voilà qui errent affolés dans le désert. Le désert s'est refermé sur eux. J'endurcirai le cœur de Pharaon et il les poursuivra. Mais je me glorifierai aux dépens du Pharaon de toutes ses forces et les Égyptiens connaîtront que c'est moi le Seigneur. Bon, voilà. Tout est dit là déjà, non ?
Oui.
Tout est annoncé.
En tout cas,
clairement.
Il y a une stratégie.
Il y a une stratégie du Seigneur. Alors, c'est très intéressant parce que c'est donc le Seigneur, le Seigneur Dieu qui conduit le peuple. Mm-hmm. Et nous, nous savons qu'il ne va pas en ligne directe. Et donc, nous apprenons là ce qui n'était pas précisé dans le chapitre précédent, nous apprenons la raison. Alors le Pharaon dira des fils d'Israël, les voilà qui errent affolés dans le désert. C'est un sacré tacticien quand même,
oui.
Le Seigneur
ah
Dieu.
Ben, complètement.
Ça donne l'illusion qu'ils sont perdus.
Mais oui, mais donc pour que les Égyptiens se mettent à les poursuivre, il faut qu'ils aient l'air d'être perdus.
Oui.
Il faut qu'ils aient l'air d'être perdus. Oui. Donc, je trouve que ça, c'est très intéressant pour nous. Peut-être que ça nous fait réfléchir aussi. On imagine parfois que les chemins du Seigneur dans nos vies sont des tracés droits, justes, etc. Et si c'était un chemin plein de tours et de détours, et que finalement, aux yeux du monde, ça paraît ne pas être sûr, ça paraît être complètement farfelu parfois, ça paraît en tout cas dénoter quelque chose de vulnérable. Et donc ici, au verset 4, « J'endurcirai le cœur de Pharaon et il les poursuivra, et je me glorifierai aux dépens du Pharaon de toutes ses forces. » Alors ça, il faut peut-être qu'on s'arrête un peu là-dessus quand même, non? Ça me rappelle une conversation dans ma paroisse, ça fait déjà quelques années de ça, on préparait la vigile pascale, et puis donc il y avait une personne qui avait dit « Mais moi, je pense qu'il faudrait supprimer ce texte-là, la vigile pascale, c'est pas possible quand même qu'on entende ça, et qu'on entende qu'il y ait Dieu qui fasse exprès de rendre le pharaon plus méchant, et puis qui est du côté des fils d'Israël. » Alors, comment est-ce que vous réagissez, vous, par rapport à ça?
En tout cas, c'est pas si simple. Je pense pas qu'on puisse avoir ce jugement aussi rapide sur ce qui se passe. En fait, on l'a vu déjà. En fait, on a rappelé un peu l'histoire précédente. Pharaon est quelqu'un qui s'est quand même il s'est entêté. En fait, il a eu beaucoup de mal à écouter en fait la voix déjà de Moïse. Et là, on n'est pas surpris de voir que effectivement. Face à ce peuple perdu au désert, il est dans un espèce d'aveuglement, en fait, en quelque sorte. Je ne sais pas si c'est uniquement le fait du Seigneur. Oui. Le Seigneur sait ce qui va passer.
Mais moi, je vous pose la question. Il est écrit de façon claire, « J'endurcirai le cœur de Pharaon ». Oui. Alors, c'est ça.
Oui.
Il faut que vous me disiez. Il faut que vous me disiez que. Alors, ben, peut-être que c'est vrai qu'il nous faut peut-être faire un petit détour aussi et nous poser la question. Parce que ce qui va être démontré, c'est qu'il y a deux logiques qui sont à l'œuvre. La logique de violence, puisque à travers les expressions pharaon, toutes ses forces, on verra après, ses chars, sa cavalerie.
Énorme.
Donc on pourra dire, pharaon, ça représente la puissance un peu aveugle. Eh bien, le Seigneur, il décide qu'il va pousser à bout cette logique pour qu'elle soit visible, qu'elle apparaisse clairement, et que c'est ça qui est à l'œuvre, et qu'on ne se trompe pas là-dessus. Alors pourra se révéler peut-être une autre logique, celle de ceux qui comptent sur le Seigneur. Mais je vous propose de nous retrouver la semaine prochaine pour une autre émission sur le même passage.